Il y a dans le ciel et sur la terre, ô Horatio, plus de choses que n'en peut rêver votre philosophie. Hamlet. Hier soir, 12 du mois noir, novembre, on a encore parlé d'apparitions et de revenants au foyer de la veillée, au manoir de Quatuc-Dual, devant un feu flambant de genêts et de bruyères. Tout à l'heure, en me promenant dans la longue avenue du manoir, j'en avais la tête toute pleine. Il y a dans tout cela un problème qui me préoccupe et me tourmente l'esprit, et je suis rentrée pour écrire cette veillée. Il avait plu et venté toute la journée, et les feuilles jaunies et rouillées des chênes et des hêtres, des châtaigniers et des frênes, voltigeaient et tourbillonnaient dans l'air, fouettées par le vent, puis venaient joncher le sol humide et détrempé. Hélas, c'est le destin. Que deviennent les plus belles choses de ce monde? La verdure des bois et les fleurs des champs et des jardins. Du fumier. Du fumier. Mais, comme dit le poète, puisque tout meurt ce soir, pour renaître demain, ne nous attristons pas trop et ne redoutons pas cette mort ou plutôt cette éclipse passagère. Le printemps reviendra qui fera renaître la verdure des bois et les fleurs des champs et des prés, et l'homme aussi aura sa résurrection. Tout change et rien ne périt, a dit Pythagore, il y a de cela bien longtemps. Des bandes de corbeaux faméliques tournoyaient et croassaient au-dessus des champs, où le soc de la charrue, attelé de chevaux vigoureux, creusait lentement de profonds sillons, et des canards sauvages, au vol élevé et disposés en angle aigu, se dirigeaient vers le nord. Tout présageait un hiver rigoureux. Après le repas du soir, après les prières dites en commun, à haute voix, la veillée commença. Tout en séchant leurs habits mouillés, les laboureurs parlèrent d'abord d'apparitions et de revenants. C'est un thème inépuisable dans nos campagnes bretonnes, et chacun a toujours raconté quelque histoire fantastique et merveilleuse, où il a joué un rôle parfois, à moins qu'il ne la tienne de son père ou de sa grand-mère. Moi, j'étais sur une escabelle de bois, au coin de l'âtre, me réjouissant de voir la veillée prendre cette tournure d'élabore, et je ne perdais rien de ce qui se disait. Voici donc comment s'engagea la conversation ce soir-là, et tout ce qui se dit jusqu'à l'heure d'aller se coucher. « Fanchard-Flore, dit tout à coup le petit pâtre nommé le Guenédour, contez-nous donc ce qu'on a vu ces jours derniers à Kerlavrec. »« Est-ce qu'on y a vu quelque chose de surnaturel, fis-je ? Des lutins, des revenants ?»« Il paraît qu'en effet, on a vu quelque chose, dit Jolory. »« Voyons, contez-nous cela, Fanchecoz, vieux François. »« Quand je vous le disais, dit Harflore, que, la nuit, on entendait des bruits étranges et surnaturels dans la grange où je couche à Kerlavrec, et qu'il faut n'être pas un poltron ni un peureux pour y rester. Vous me riez au nez et prétendiez que j'avais rêvé. » Pour moi, dit Fancho, un ancien domestique de Kerlavrec, je n'ai jamais douté de la véracité des récits de Fanchard-Flore, et pour de bonnes raisons, c'est que j'ai moi-même entendu tout ce qu'il assure avoir entendu. Et c'est si vrai que je dis un jour à mon maître que, s'il ne me faisait coucher ailleurs, je préférais le quitter. Et cependant, sans vanterie, je ne suis ni poltron ni peureux, et je tenais aussi beaucoup à mon maître. Vous ne nous aviez jamais parlé de cela, Fancho, mais qu'entendiez-vous donc de si effrayant? J'entendais quelquefois un vacarme de tous les diables. Il me semblait qu'on remuait et déplaçait tout dans la grange les instruments de labour, pioche, pelle, fourche, herse, charrue, charrette, et jusqu'au vieux coffre rempli d'avoine et d'orge. D'autres fois, la machine à battre elle-même se mettait en mouvement, et j'entendais alors les chevaux qui frappaient du pied le sol à la roue du manège et le fouet du conducteur qui claquait, et c'était un vacarme à réveiller un mort. Quand je regardais et aventurais la tête hors du lit par les plus beaux clairs de lune, je ne voyais rien d'extraordinaire et chaque chose était à sa place. C'est aussi ce que j'entends et rien n'est changé, reprit Harflore. Dans les premiers temps, en me levant le matin, mon premier soin était de m'assurer si rien n'avait disparu. Rien n'avait bougé. Aujourd'hui, j'y suis habitué et je n'y fais plus grande attention. Les vieillards comme moi dorment peu, et, comme je sais qu'il y a dans ce monde bien des choses qu'il ne faut pas trop essayer de pénétrer, car les plus fins et les plus savants y perdent leur latin et déraisonnent là-dessus, tout comme nous autres, pauvres ignorants. Je me dis que c'est la volonté de Dieu. Puis, je récite un De Profundis pour les pauvres âmes en peine et déroule les grains de mon chapelet jusqu'au chant du coq. Mais dites-nous ce qu'on a vu dernièrement, insista Even, car il paraît que cette fois, on n'a pas seulement entendu, mais que l'on a aussi vu quelque chose. Pour moi, je n'ai rien vu, dit Fanchkoz. Mais voici ce que raconte Laou Arfur, le marchand de chevaux de Goarek. Il revenait l'autre jour de la foire de Keraes, Carré aujourd'hui, avec ses chevaux. Il se faisait tard et la nuit était sombre. En passant devant Kerlavrek, il vit trois messieurs debout à l'entrée de l'avenue qui conduit à la maison. L'un d'eux paraissait tenir une lumière à la main. Un autre avait un tison enflammé, comme pour allumer sa pipe, et il paraissait causer tranquillement. Arrivé près d'eux, Arfur leur souhaita le bonsoir et demanda l'heure. Mais il ne reçut pas de réponse et fut bien étonné de voir les trois personnages disparaître dans des flammes qui rasèrent le sol et s'évanouirent aussitôt. Puis il ne vit plus rien. Voilà ce que raconte Arfur. « Des contes que tout cela, dit Andran, des contes de bonnes femmes capables tout au plus de faire peur aux enfants. J'ai marché un peu partout et à toute heure de nuit et de jour et je n'ai jamais rien vu, rien entendu de surnaturel et je crois peu à toutes ces sottes histoires. Voulez-vous savoir la vérité sur le récit de Arfur ? Rien n'est plus simple. Arfur avait bu un peu trop de vin de feu. Eau de vie, tout le long de la route, à Rostrenen, à Plouguernevel et ailleurs, il avait l'imagination échauffée et il n'y voyait que du feu. Je ne sais ce qu'il y a de vrai à tout cela, reprit Fanchot. Mais ce que je sais bien, c'est que mademoiselle Julia ne donnera de paix à sa mère qu'elle n'ait fait dire des messes pour son père mort depuis un an à peine. Elle aimait bien son père, la pauvre enfant, et elle pense sans cesse à lui. Dernièrement encore, elle me demandait si je le croyais heureux dans l'autre monde. Ainsi, Dran, vous ne croyez pas aux bruits surnaturels, aux apparitions et aux revenants ? Non, certainement, et il me déplaît même fort d'en entendre parler si longuement devant les enfants, au risque de les rendre peureux et poltrons pour le reste de leurs jours. Mais prenez garde, Andran, ne serait-ce pas forfanterie chez vous ? Et ne seriez-vous pas de ces gens qui s'emberlucoquent si obstinément d'une opinion qu'ils n'en veulent jamais démordre, lors même qu'il leur est démontré jusqu'à l'évidence qu'ils sont dans l'erreur ? J'ai entendu des gens savants discourir là-dessus, le maître d'école, le maire et le recteur lui-même, et ils se moquaient bien des pauvres innocents qui croient aux lutins et aux revenants. Ils les appelaient ignorants et superstitieux, si je me rappelle bien, et disaient que cela n'avait pas de sens commun. Et vous-même, Française, qui avez voyagé et étudié, vous qui savez le latin qui est, dit-on, la langue des sorciers et des magiciens, et qui sans doute avez un peu fourré le nez dans leurs livres, je gagerais bien que vous êtes de mon avis et que vous ne croyez pas un mot de toutes ces balivernes. Votre question m'embarrasse un peu, Andran. Je crois volontiers votre recteur, votre maître d'école et votre mère aussi gens savants et très sensés, sans me regarder pour cela obligé de partager leur manière de voir sur ce sujet. Et je ne saurais être aussi absolu et aussi tranchant que vous et eux dans une matière aussi sérieuse et si délicate. Si je vois de grands noms et de grandes autorités contre, je vois aussi de grandes raisons et de respectables témoignages pour. Je vous répondrai un peu comme Fancharflor. Il est dans ce monde bien des choses que ne peuvent comprendre ni expliquer notre raison et toute notre science, et Dieu est grand. Et puis encore, je crois que notre monde visible et tangible, celui qui tombe sous la perception de nos sens et dont la raison et la science de l'homme se rendent compte plus ou moins bien, est comme enveloppé d'un autre monde, imperceptible et immatériel, où tout est mystère pour nous, et dont nous avons parfois de vagues et passagères révélations. Celui qui croit indistinctement à toutes les histoires de bonnes femmes, comme on dit, qu'il entend débiter de ci de là, est un sot. Mais plus sot est encore, à mon avis, celui qui ne croit qu'à ce qu'il a vu et touché du doigt, qu'à ce qu'il comprend. Bah, tout ce que vous venez de dire là est sans doute bien savant, car je n'y ai pas compris grand-chose. Mais ce qu'il y a de certain et de clair pour moi, c'est que j'ai l'oreille aussi fine et aussi délicate à saisir les moindres bruits, la vue aussi sûre et aussi perçante que nul autre ici, et dès lors, je ne vois pas pourquoi je n'entendrai pas et ne verrai pas là où ils prétendent entendre et voir. Mais je le répète, tout cela ne peut exister que dans des imaginations malades ou surexcitées, qui prennent des réalités pour des fantômes, comme dit le maître d'école. Je n'ai jamais rien vu de surnaturel. Je n'en ai guère entendu davantage, dit Catel, qui tricotait, assise sur le vieux bandeaussier de chêne auprès du feu. Pourtant, je ne nie d'une manière absolue ni les apparitions, ni les bruits surnaturels, et j'ai si souvent entendu de ces récits merveilleux et fantastiques, faits avec tant de conviction et de bonne foi par des personnes de conditions, d'intelligence, d'instruction et d'âge si différents, que je n'hésite pas à déclarer que je crois à l'existence de ce que l'on appelle ordinairement le surnaturel dans ce monde. Mais je crois aussi qu'il y a certaines dispositions d'esprit, certaines organisations privilégiées pour la perception des phénomènes de cet ordre mystérieux. Voici du reste la seule chose un peu extraordinaire dont j'ai jamais été témoin. C'était à Kerkabine, vieux château près de Pontrieux, sur lequel il courait de singuliers bruits et que l'on disait hanté par toutes sortes d'hôtes mystérieux. J'y étais allé veiller ma grand-tante qui se mourait. La pauvre tante s'éteignit doucement à l'âge de 80 ans. Son âme quitta paisiblement et comme sans regret son corps flétri par la vieillesse, usé par les travaux et les douleurs d'une vie longue et laborieuse. Nous passâmes la nuit autour de son lit, faisant des lectures pieuses et récitant les prières habituelles des veillées des morts. Nous étions là une vingtaine de personnes. À une heure très avancée de la nuit, nous entendîmes tous, très distinctement, le pas d'un cheval arrivant au grand galop sur le pavé de la cour. Ma tante, la fille de la défunte, dit aussitôt « Voilà mon frère, le prêtre, qui arrive. Il n'a pas perdu de temps. » Puis, s'adressant à un domestique, « Allez le recevoir, Fangevraz, et mettre son cheval à l'écurie. » Deux domestiques sortirent aussitôt. Du haut du perron, ils regardèrent dans la cour et ne virent rien, ni homme ni cheval. Cependant, ils étaient si certains d'avoir entendu le bruit des sabots d'un cheval sur le pavé de la cour qu'ils se rendirent à l'écurie, persuadés que le cavalier y avait lui-même conduit sa monture ou qu'un des chevaux de la maison avait rompu sa chaîne et s'était évadé. Mais ils ne trouvèrent à l'écurie ni cavalier ni cheval étranger et aucun des chevaux de la maison ne s'était évadé. Très étonnés de cela, ils vinrent en instruire ma tante qui répondit tranquillement « C'est encore le cheval de Margeot. » La veillée continua et le prêtre attendu n'arriva qu'au point du jour. Or voici ce que c'était que ce Margeot dont je me fis plus tard conter l'histoire, car ces simples mots « C'est le cheval de Margeot » avec la circonstance mystérieuse d'un cavalier invisible me frappèrent d'une étrange façon. Margeot avait habité le château de Kerkabine, il y avait de cela 50 ou 60 ans. C'était un homme d'une grande force physique, violent et emporté, craint et redouté comme la peste dans tout le pays et sur lequel il courait d'étranges bruits. On disait qu'il avait vendu son âme au diable pour avoir de l'argent et qu'il égorgeait quelquefois des petits-enfants enlevés dans les campagnes quand il les trouvait seuls. Aujourd'hui encore, dans les environs de Pontrieux, quand les mères veulent faire taire les enfants qui pleurent ou réprimer chez eux un acte d'indocilité, elles les menacent de Margeot, comme ailleurs on les menace de croque-mitaine ou de barbe bleue. Entre autres crimes, on l'accusait de la mort d'un douanier. Je ne sais quelle raison on donne du meurtre, si Margeot faisait de la contrebande ou s'il avait quelque autre sujet de haine et de vengeance contre le douanier. Mais aussitôt le crime commis, il monta, dit-on, sur un excellent cheval qu'il avait, et que l'on disait aussi être un présent de l'enfer, et se rendit à Saint-Brieuc, bride abattue. C'était de nuit. Saint-Brieuc est à 12 ou 13 lieues de Kerkabine. La justice informa, fit une enquête, et sur quelques indices et de nombreuses présomptions, Margeot fut mise en accusation. Mais grâce à la rapidité et au jarret de fer de son cheval, il parvint à établir un alibi et fut acquitté. Il mourut peu de temps après, à la grande joie de tout le pays, et quelques vieilles femmes prétendent que deux diables rouges enlevèrent son corps pendant la veillée de mort et que le cercueil que l'on enterra dans le cimetière de Plouec était vide. Depuis lors, la nuit, on entend souvent un cheval arriver bride abattu dans la cour de Kerkabine. Et quand les domestiques se présentent pour recevoir le voyageur attardé et mettre son cheval à l'écurie, ne trouvent ni cavalier ni cheval, ils rentrent en maugréant et en disant « C'est encore ce diable de Margeot !» On raconte sur ce château de Kerkabine, dit Pipi Armorvan, une foule d'histoires, toutes plus ou moins étranges. Le propriétaire actuel est un de mes amis d'enfance. Je l'ai toujours connu un homme résolu, décidé et paraissant peu croire au revenant. Que dit-il aussi du cheval de Margéo? Il l'a fait jurer plus d'une fois. Lorsqu'arrivant sur son perron dans l'espoir de serrer la main d'un parent ou d'un vieil ami qui lui venait demander l'hospitalité, il voyait la cour déserte et rentrait en disant comme les autres « C'est encore ce maudit Margéo ». Mais voici quelque chose de plus plaisant puisque nous parlons des hôtes mystérieux de Kerkabin. Vas-tu nous parler de la demoiselle de la chambre blanche ? Demanda Frances. Précisément, tu connais l'histoire, toi, mais les autres ici ne la connaissent pas. Laisse-moi donc la leur conter. Kerkabin dut être autrefois une habitation noble assez importante. C'est du moins l'idée que nous en donnent quelques débris épars de ci, de là. Des chapiteaux, des tronçons de colonnes de granit, des écussons héraldiques et de grands lions lampassés sculptés en relief sur la pierre des manteaux des cheminées. De vieilles traditions et des fragments de ballades populaires se conservent aussi dans la mémoire des plus anciens de la commune de Plouec. Et tout cela, il faut le dire, ne donne pas bien bonne opinion des seigneurs féodaux de Kerkabin. Ainsi, une ancienne ballade, dont j'ai entendu chanter quelques couplets, parle d'une jolie couturière, Argemenerez Coant, contre laquelle tous les beaux discours, toutes les promesses et les offres séduisantes du seigneur de Kerkabin échouèrent misérablement. Mais la pauvre fille paya de la vie son honnêteté et sa vertu, car la tradition nous apprend que le seigneur, peu habitué à éprouver de pareils échecs, et furieux de ne pouvoir arriver à ses fins, fit déposer un baril de poudre sous le pavillon où elle travaillait ordinairement, et tout sauta en l'air, le pavillon et la belle couturière. Belle et noble manière, ma foi, de se venger de la louable résistance de cette pauvre fille, dit Even. Mais c'était la manière d'agir de ces seigneurs avec le pauvre monde, les paysans et les roturiers, tous gens corvéables et taillables à merci. Et ils les traitaient comme de véritables bêtes de somme et pis encore. Dis-nous, Catel, ce que tu sais de la vieille ballade dont tu parlais tout à l'heure. Je ne la sais pas tout entière. C'est fâcheux. N'importe. Dis-nous ce que tu en sais. Voici ce que j'en sais. Cela se chante sur un air de danse. C'est une ronde. Menain ketma unan, da gerkabin da gerhatan. Rag an a otro azo erger, a dorfedin ma brazouer. Il y a une variante. A dransfedin ma davanzer. Je ne veux pas aller toute seule chercher du feu à Kerkabin, car le seigneur est à la maison et il me casserait mon brasier. De Kerkabin et de Rosambo sont camarades tous les deux, sont tous les deux camarades en fait de vin et de femme. Le vieux seigneur de Kerkabin est le plus habile danseur qui exista jamais. Le seigneur de Kerkabin et ses garçons danseraient sur un plat. À Kerkabin, il y a une belle salle où vont danser les jeunes gens, et le vieux seigneur et ses garçons apprennent à danser à ceux qui ne le savent pas. À Kerkabin, il y a une chambre toute pleine de bagues d'argent et bagues d'or, pour séduire les pauvres jeunes filles. Il n'y a pas de jeune fille en Plouec qui ne possède un beau corset de toile fine venant du seigneur de Kerkabin. Il n'y a pas de jeune fille en Plouézal qui n'ait un beau châle rouge ou violet, c'est le vieux seigneur de Kerkabin qui les a tous payés. Il n'y a pas de jeune fille à Guingamp qui ne porte au cou une croix d'argent dorée venant du seigneur de Kerkabin en Plouec. Il n'y a pas de jeune femme à Guingamp qui ne porte une bague d'argent dorée venant du seigneur de Kerkabin en Plouec. Il n'y a pas de jeune fille en Plouec qui n'ait couchée au château de Kerkabin, à l'exception de la fille de Quatansant et de la jolie couturière. Sur l'emplacement du pavillon détruit, reprit Catel, un autre pavillon fut construit au coin du jardin, mais moins beau sans doute et moins grand que le premier. Le rez-de-chaussée servait d'écurie et au premier étage il y avait une chambre à deux lits où l'on envoyait coucher les neveux et les habitués de la maison quand il y avait nombreuses sociétés au château. Tu y as sans doute couché, Frances ? Oui, plus d'une fois, et je n'ai jamais vu la demoiselle blanche. Moi aussi, dit Pipi Armorvan, j'y ai passé de joyeuses nuits à jouer aux cartes et à boire l'hiver près d'un feu d'enfer, et si la belle demoiselle s'était montrée, nous lui aurions fait un joyeux accueil. » De vagues bruits, répliqua-t-elle, couraient sur la chambre blanche, on la nommait ainsi. On parlait de bruits nocturnes, d'une demoiselle aperçue, etc. Mais il y avait si longtemps qu'on n'avait rien vu ni entendu d'extraordinaire, que l'on croyait qu'il y avait prescription, et que les esprits de l'autre monde n'avaient plus aucun droit séant. D'ailleurs, nous y avons tous couché un jour ou l'autre, et personne ne se plaignait des visites de la demoiselle. On ne se faisait donc aucun scrupule d'y envoyer coucher les hôtes du château quand l'occasion s'en présentait. Un jour qu'un fermier était venu payer son terme de la Saint-Michel, le temps devint si mauvais vers le soir, pluie, vent, tourmente, et il y avait si loin à faire pour retourner chez lui, qu'on le pria d'attendre jusqu'au lendemain et de passer la nuit au château. On l'envoya coucher dans la chambre blanche. Le lendemain, il était de bon matin à la cuisine du château. Il arriva aussitôt que les servantes ouvrirent les portes. Il avait froid, il était pâle. Il s'assit sur un escabeau au coin du feu et se mit à fumer sa pipe, silencieux et l'air pensif. Quand descendit ma tante vers 8 heures, le voyant là si rêveur et si triste, elle lui dit « Qu'avez-vous donc, Marc ? Je vous trouve bien triste ce matin. » « Je n'ai rien, madame. » « Si, il y a quelque chose, car vous n'êtes pas ainsi ordinairement hier soir. Quand vous êtes allé vous coucher, vous étiez gai et content. Est-ce que vous seriez indisposé ?»«
Nullement, madame, je me porte parfaitement, je vous assure. »
« Mais quoi donc, alors ? Il faut me le dire, absolument. Est-ce que vous n'auriez pas bien dormi ?»«
Ah, peut-être avez-vous aussi reçu la visite de la demoiselle, » ajouta-t-elle, en riant et par pure plaisanterie.
« Comment dites-vous, la demoiselle ?»«
Oui, une belle demoiselle qui va quelquefois dans la chambre blanche rendre visite à ceux qui y couchent. »«
Ma foi, puisqu'il faut vous le dire, au risque de vous voir vous moquer de moi, je vais vous raconter tout, franchement et sans rien cacher. » « J'ai reçu en effet la visite de la demoiselle, comme vous dites. »«
Bah, vous plaisantez, Marc, ou vous avez rêvé ?»«
Je ne plaisante pas, madame, et je n'ai point rêvé. »«
Je parle sérieusement, croyez-le bien. Je ne suis pas peureux ni superstitieux, et j'ai ri bien des fois et haussé les épaules en entendant parler de fantômes et de revenants. Mais maintenant, ma foi... Enfin, voici ce qui m'est arrivé la nuit dernière. »
Ma tante, le voyant si grave et si sérieux, ne plaisantait plus. Elle écouta avec attention.
J'avais éteint ma chandelle, dit Marc, et j'étais tranquillement dans mon lit, songeant que ma femme serait inquiète de ne pas me voir revenir, car il m'arrive bien rarement de découcher. La lune paraissait par moments. Tout à coup, j'entendis soulever le loquet de la porte, puis la porte s'ouvrit et je vis entrer, lentement et sans faire de bruit, une femme que je ne connaissais point. Cette apparition soudaine me surprit d'autant plus que je n'avais entendu aucun bruit dans l'escalier, et cependant j'ai l'oreille bonne, Dieu merci. Je pensais d'abord que c'était une servante du château envoyée chercher quelque objet dans la chambre. Mais sa mise était des plus légères. Elle ne paraissait avoir que sa chemise pour tout vêtement, ce qui me fit croire encore qu'elle ignorait que j'étais là. Cependant, quand je la regardais plus attentivement, je fus bien étonné de ne voir que le buste d'une femme jusqu'à la ceinture. L'apparition, qui ne semblait pas toucher le plancher, se glisse jusqu'à mon lit, lentement et toujours silencieuse, quoique j'eusse crié 2 ou 3 fois « Qui va là ?» Je regardais cette tête, son corps, et sa vue me glaçait le sang. Je ne pouvais plus parler, et mes cheveux se dressaient sur ma tête. Mais la voilà qui entre dans mon lit, et se glisse sous les draps à mes côtés. Puis, elle se penche sur moi et me souffle au visage, et je sentais son souffle qui soulevait mes cheveux et les faisait voltiger autour de mon front. J'avais une peur terrible, je ne savais que faire. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que je ne sentais rien, ni quand le fantôme avait paru se glisser sous les draps, ni quand je faisais des efforts pour le repousser avec mes mains. Enfin, ne sachant plus ce que je faisais, mourant de frayeur, je quittais le lit et m'enfuis en chemise. Et c'est dans ce triste état que j'ai passé presque toute la nuit dans votre jardin, jusqu'au chant du coq, n'osant aller chercher mes habits tant j'avais peur de la demoiselle, ni aussi aller réveiller les domestiques à l'écurie tant j'avais honte de me montrer dans cet état et craignais de devenir la risée de tout le monde. Voilà, madame, pourquoi vous me voyez ce matin un peu triste et pourquoi aussi je m'approche tant du feu, car je vous assure qu'à cette époque de l'année, les nuits sont un peu fraîches pour les passer dehors en toilette si légère. Cette aventure du fermier est historique.
« Allons, Marc, dit ma tante, vous m'étonnez beaucoup.
Jusqu'à présent, j'avais regardé l'histoire de la demoiselle de Kerkabine comme une fable inventée à plaisir. Mais d'après tout ce que vous venez de me raconter, je vois que c'est sérieux, que c'est vrai, et je n'en plaisanterai plus. J'entends bien le cheval de Margéo, moi. Pourquoi d'autres ne verraient-ils pas la demoiselle de la Chambre Blanche? Mais pour n'exposer plus personne à passer une aussi mauvaise nuit que celle que vous avez passée, mon pauvre Marc, la Chambre Blanche sera démolie et personne n'y couchera plus. Et la Chambre Blanche fut en effet démolie, et depuis l'on n'a pas revu la demoiselle de Kerkabine. Pour moi, je ne serais pas parti, dit Paotrick Guillon, le pâtre, surtout en chemise. J'aurais au moins emporté mes hardes et je me serais habillé dans le jardin. Que n'étais-je donc là à la place de ce poltron, dit Évène. J'aurais été bien aise de faire la connaissance de cette aimable demoiselle, et je vous en aurais donné des nouvelles. Mais, bah, cet homme avait la berlue. J'ai couché un peu partout à Kerkabine, et je n'ai jamais vu la demoiselle. Ni lui non plus ne l'a pas vue, il rêvait certainement. Ah, j'aime bien vous entendre dire, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, je n'aurais pas fait comme cet autre, etc. Cela ne coûte rien à dire ici au coin du feu. Mais si vous aviez été à la place de cet homme, vous auriez fait comme lui, et peut-être seriez-vous mort ou devenu fou de frayeur, brave Paotrick. Je sais quel cas il faut faire de ces bravades et de ces bravoures à distance. Vous avez bien raison, Pipi, dit Fancho. Je n'ai jamais rien vu de semblable de ma vie, ce qui ne prouve rien contre la vérité des apparitions. Et je ne me moque jamais de ceux qui font de ces récits, quelque étrange qu'ils puissent être, quand je vois chez le conteur de la sincérité et de la conviction. Je ne suis ni peureux, ni superstitieux plus qu'il ne faut l'être. Je tâche, autant que je le puis, de trouver la raison et de me rendre compte de ce que je vois ou entends, et, si je ne comprends pas, je ne me hâte point de dire « cela n'est pas vrai, mensonge, rêve, etc. » Je pense seulement que Dieu est tout-puissant et que l'homme n'est qu'un habitant de la terre. Une fois, j'ai eu bien peur dans ma vie, et je ne crains pas de l'avouer devant Paotrick Guillon et Andrane, qui n'ont jamais eu et n'auront jamais peur, disent-ils. Vous allez voir s'il y avait lieu. Il y a de cela bien 15 ans. J'avais donc 40 ans, et par conséquent, je ne devais pas être un enfant qui tremble en voyant son ombre. J'étais charretier à Kerelam. Un beau soir du mois de juin, je menais mes chevaux au champ pour y passer la nuit. J'étais monté sur celui de devant. Les autres suivaient à la file, et je chantais le saône de Cloarec l'Embol. La nuit était calme et sereine, et j'avais plaisir à entendre les échos qui répétaient et se renvoyaient mon chant. Il fallait passer par un chemin creux, profond et étroit, entouré des deux côtés d'arbres et de buissons touffus, de ronces et de chèvrefeuilles, qui s'entrecroisaient et formaient au-dessus du chemin un dôme de verdure, que les rayons du soleil pénétraient difficilement le jour. Jugez de l'obscurité qui y régnait la nuit. En m'engageant dans ce chemin, qui avait du reste assez mauvaise réputation dans le pays, parce qu'on le disait hanté par toutes sortes d'esprits méchants, je vis devant moi dans les ténèbres poindre deux lumières. Je les pris pour des vers luisants, et je continuai, toujours chantant et sifflant, et ne m'inquiétant de rien. À mesure que j'en approchais, les lumières allaient grandissant, et bientôt elles m'apparurent comme deux forts cierges, tenus par des mains invisibles. Ceci commençait à me paraître assez singulier. Cependant, je n'avais pas peur et j'avançais toujours les yeux sur les lumières. Mais voilà que, tout à coup, les chevaux refusent d'aller plus avant. Et quand je les excitais, quand je les frappais, ils se cabraient, soufflaient des naseaux avec grand bruit et voulaient retourner en arrière. J'eus beau jurer, menacer et crier que celui qui était venu là, espérant me faire peur et m'empêcher de passer, perdait sa peine et que je passerais quand même, rien ne répondait et les lumières brillaient toujours à mes yeux et paraissaient même me narguer. Me voilà bien embarrassé. Il fallait absolument passer par là, car il n'y avait pas d'autre chemin qui conduisît au champ où je voulais aller. Je commençais d'avoir peur. Et je délibérais avec moi-même si je retournerais sur mes pas ou forcerais le passage. La pensée que l'on se moquerait de moi et qu'on me traiterait de poltron me retint. Je me mis donc à battre mes chevaux à tour de bras et je passai au galop devant les lumières qui restèrent immobiles comme devant. Et aucune voix, aucun bruit ne se fit entendre. Cependant, je fus pris d'une telle frayeur qu'il me semblait que mes chevaux m'enlevaient dans l'air. Je ne dis rien à personne de ce qui m'était arrivé. Mais j'étais honteux de moi-même et je voulais en avoir le cœur net et savoir à quoi m'en tenir. M'armandant de courage et de résolution, j'y retournai seul la nuit suivante et à la même heure. quand j'entrais dans le chemin noir, les lumières étaient à la même place, plus brillantes que jamais. Je fis le signe de la croix et marchai droit sur elle. Devinez ce qui m'avait causé tant de frayeur. Je vous le donne en sang.
Un lutin, dit Arguenedour, le petit pâtre.
Non, pas Autric et Scottan.
Le petit homme au tison enflammé, dit Mariana.
Non.
Les yeux d'un chat, dit Jolory.
Pas davantage.
Un hibou, alors, dit Andran.
Vous n'y êtes pas.
Du bois pourri, dit Pipi Armorvan.
Oui, Pipi a trouvé. C'était tout simplement un vieux tronc de hêtre pourri et phosphorescent qui brillait ainsi dans l'obscurité.
Ah, par exemple, un tronc de hêtre. Vous vous moquez de nous, Fancho, dit Paotrick Guyon. Nous ne sommes pas encore assez simples pour qu'on nous fasse croire qu'un tronc de hêtre brille comme des chandelles, à moins pourtant qu'on y eût mis le feu.
Rien n'est cependant plus vrai et je ne me moque de personne, Paotrick, répondit Fancho.
Moi, j'y crois parfaitement, dit Frances. Et cela s'explique le plus naturellement du monde, aussi bien que Paotrick et Scottan, dont quelqu'un a prononcé le nom. Le bois pourri laisse dégager du phosphore l'été, et le phosphore brûle à l'air et brille dans l'obscurité.
Je ne sais pas ce que c'est que du phosphore, reprit Fancho, mais je sais bien que cette lumière avait quelque chose de particulier et ne ressemblait pas aux autres lumières, flammes ou feux, que nous voyons tous les jours. J'eus la curiosité d'en approcher la main et je ne sentis aucune chaleur, de sorte qu'alors je mis la main dessus et la flamme s'attacha à ma main, mais sans me brûler.
C'est parfaitement cela, reprit Frances. Et tenez, une expérience que tout le monde peut faire. Prenez une ou plusieurs allumettes chimiques à la fois, mettez-les dans l'obscurité et aussitôt vous en verrez briller l'extrémité qui est enduite de phosphore. Touchez cette même extrémité avec les doigts. Vos doigts brilleront aussi dans l'obscurité, et cette flamme bleuâtre qui jouera autour d'eux ne vous causera aucune brûlure, aucune douleur.
Allons, jusqu'à présent, dit Armeur, je n'avais jamais entendu parler de feu qui ne brûle point, et pour nous assurer qu'on ne se moque pas de nous, puisque nous avons ici des allumettes, nous allons en faire l'expérience sur le champ. On mit des allumettes à l'air, dans l'obscurité, on s'en frotta les mains, et tout se passa comme Frances l'avait dit.
« Et pas Autric et Scottan, dit Mariana.
J'ai toujours entendu dire que c'est un petit lutin qui tient à la main un tison allumé et qui voltige comme un papillon de nuit au-dessus des prairies et des marais en brandissant son tison. Est-ce que ce n'est pas vrai ?»«
Pas précisément, répondit Frances. Voici ce que c'est que ce lutin si léger et si fantastique. C'est encore du phosphore qui se dégage des marais et généralement de tous les lieux humides. » Et les lumières que l'on aperçoit encore près des fontaines et dans les cimetières, et que l'on prend souvent les premières pour des génies des sources, les secondes pour des âmes voltigeant au-dessus des tombes, où elles viennent visiter leur corps, ne doivent pas s'expliquer d'une autre manière.
J'ai cependant entendu dire, reprit Mariana, que ces mauvais esprits ont souvent égaré et quelquefois noyé des gens ivres ou des téméraires qui les avaient poursuivis en voulant les atteindre.
Ces feux phosphorescents se déplacent et s'éloignent quand on les approche et semblent défier et narguer celui qui s'engage à leur poursuite. Et je comprends très bien que des gens ivres, et d'autres aussi, se laissant entraîner trop loin et pu se noyer dans des étangs ou s'engager dans des marais dont ils ne pouvaient plus sortir. Et c'est ainsi que Paotrick Hescottan a été accusé d'une foule de scélératesse et de malice de ce genre. « Il est bien vrai, dit Catel, que le bois pourri brille et luit dans l'obscurité et occasionne beaucoup de frayeurs et de récits dans le genre de celui de Fancho. Je vais vous raconter une petite aventure qui le prouve suffisamment et dont j'ai été témoin. Ceci se passait au couvent des Ursulines de Morlaix, où j'étais alors pensionnaire. J'avais 14 ou 15 ans. Ce couvent avait été autrefois un cloître de moines franciscains, je crois. Il y avait, contre la vieille chapelle, un ossuaire, comme il y en avait autrefois dans presque tous les cimetières de Basse-Bretagne, et comme il en existe dans beaucoup encore. On entassait dans ces ossuaires les crânes et tous les ossements que le fossoyeur déterrait en creusant de nouvelles fosses dans le cimetière. Notre ossuaire était bien garni et l'on y voyait, entre les balustres de pierre ou entassés au fond, les fémurs, les tibias, les humérus et les crânes blanchis et grimaçants
des anciens hôtes du couvent que nous occupions. Il fallait passer à quelques pas de là pour se rendre à la chapelle, et quand nous revenions de la prière du soir, nous y jetions souvent des regards de terreur et craignions de voir s'allumer des lumières au fond de ces grands orbites creux et tous ces eaux se relever, se mettre en mouvement et courir après nous. Plus d'une de nous fit souvent de ces rêves lugubres dans les premiers jours de son arrivée. Puis, peu à peu, l'on s'y habituait, l'on n'y pensait plus. Cependant, un soir, nous fûmes bien forcés d'y songer. Nous traversions, comme d'habitude, le cimetière en revenant de la prière. Tout à coup, une de nous, tournant les yeux du côté de l'ossuaire, y voit briller des lumières et pousse un cri et se serre contre sa voisine en montrant du doigt le sujet de sa frayeur. Tous les yeux se portent dans cette direction et l'on crut voir les ossements remuer et se lever, les squelettes se reconstituer et se mettre en marche vers nous avec des gestes menaçants et du feu dans les orbites. Vous devez penser si nous eûmes peur. Comme on se serrait les unes contre les autres, comme on assiégeait les sœurs qui avaient autant de peur que nous, comme on pleura, comme on poussa des cris d'effroi. Nous gagnâmes les salles d'études, les dortoirs, et nous nous blottîmes partout, sous les tables, sous les lits, dans les lits, plus mortes que vives. La mère supérieure sortit avec 3 ou 4 des plus anciennes religieuses, portant des flambeaux, et elles se dirigèrent vers l'ossuaire en récitant des prières. Mais à mesure qu'on approchait avec les flambeaux, les fantastiques lumières s'éteignaient, et quand on s'éloignait, elles reparaissaient encore. Enfin, la mère supérieure prit une résolution héroïque, et, tenant son chapelet d'une main, un buis sacré trempé dans de l'eau bénite de l'autre main, elle s'approcha en aspergeant l'ossuaire, avança la tête entre les balustres de pierre pour voir dans l'intérieur et vit que l'on avait jeté parmi les ossements des morceaux de bois pourri. Soupçonnant alors que ce bois pourri devait être la cause de ces mystérieuses lumières, elle en prit un morceau, le posa à terre, puis, s'en éloignant avec son flambeau, elle vit qu'il brillait et luisait dans l'obscurité, et dès lors tout fut expliqué. Cette explication nous parut cependant peu concluante. Et plus d'une d'entre nous ne dormit pas de la nuit, ou ne vit dans ses rêves que morts et squelettes qui la poursuivaient. Pendant plusieurs jours, nous ne passâmes devant l'ossuaire qu'en tremblant, et en y lançant à la dérobée des regards de terreur et de défiance. Puis on en rit, et enfin, on n'y pensa plus. « Et voilà les histoires de revenants, » dit Even. « Pour moi, je crois que tous ces mystères, toutes ces apparitions surnaturelles et effrayantes, pourraient trouver leur explication aussi claire et aussi simple que celle-ci, si l'on raisonnait un peu plus, et que l'imagination grossit et transforma les choses un peu moins. Quand on voit ou que l'on entend quelque chose qui ne vous paraît pas ordinaire, il faudrait toujours marcher droit et hardiment à l'apparition ou au bruit, sans trembler et sans se créer des fantômes imaginaires, et l'on serait étonné de voir comme tout cela est simple et naturel. » Rappelez-vous le fameux diable de Gernaham, n'est-ce pas ton avis, Frances? Je crois qu'en effet, Even, on trouverait une explication simple et naturelle à bien des choses de ce genre, qui nous paraissent d'abord mystérieuses et inexplicables. Mais je crois aussi qu'il resterait bien des choses encore, qui seront toujours des énigmes pour nous, et que ce monde est rempli de mystères dont la science nous donnera peut-être un jour le secret. Bah, tu as toujours la même réponse, toi. À laquelle je ne comprends rien du tout. Je n'aime pas les réponses évasives. « Eh bien, Even, » dit Pipi, « puisque tu es si malin et que tu prétends tout expliquer, tâche donc de me tirer au clair ce que je m'en vais raconter. »« Comment vous aussi, Pipi, vous croyez aux revenants ?» dit Andran. « J'ai d'excellentes raisons d'être un peu moins incrédule que vous à cet endroit, Andran, et, en le disant, je ne crains pas que l'on se moque de moi. » On sait bien que je ne suis ni peureux ni poltron, et je me suis trouvé souvent, en Afrique et ailleurs, dans des passes difficiles dont je me suis tiré à mon honneur, et où je me suis comporté de manière à ne pas permettre le moindre doute à cet égard. Mais arrivons au fait. Écoutez-moi un moment, puis Even et Andran me donneront l'explication de tout ce que je vais vous dire. Je demeurais alors à Runeriyu, une maison où j'aurais voulu vous voir pendant 8 jours seulement, Andran, pour éprouver un peu votre courage et votre incrédulité. Une nuit, je revenais de Kerarborn, où je m'étais attardé à jouer aux cartes, après avoir passé le moulin du Pont-Meur, j'entrais dans le petit taillis qui, comme tu le sais, Even, et toi aussi, Frances, est à l'extrémité levant de la prairie dont l'extrémité opposée touche au bâtiment de Runeriou. Un sentier étroit traversait ce petit taillis, et j'y avais à peine fait quelques pas qu'une voix nette et intelligible cria assez près de moi « Pipi !» comme chacun de vous pourrait le dire là, auprès du feu. Je me retournai du côté d'où venait la voix, et je dis sur le même ton et avec assurance « Quoi ? Qui m'appelle ?» Mais pas de réponse, et j'eus beau regarder de tous côtés, je ne vis personne. Je ne m'en inquiétais pas davantage, et je continuai ma route. Mais bientôt, la même voix dit encore, et plus près de moi, « Pipi !»« Et quoi donc, mis le diable, que me veux-tu ?» Pas de réponse encore. L'imbécile qui est là et qui cherche à me faire peur perd sa peine, et ferait bien de répondre et de se montrer. Autrement, je pourrais bien l'aller chercher, et alors il s'en repentirait, dis-je d'un ton menaçant. Rien ne répondait ni ne se montrait toujours, et je me remis à marcher d'assez mauvaise humeur. « Pipi » cria-t-on une troisième fois, plus fort et plus près de moi. J'étais en colère. Je coupai un fort bâton dans un buisson de coudrier, et je me mis à battre le bois en tous sens, en jurant et en maugréant. « Montre-toi donc, poltron, lâche ! Malheur à toi si je te trouve !» Mais je ne trouvais rien, et je m'en allais, furieux, toujours maugréant et jurant. J'étais sorti du taillis, et je continuais de suivre le sentier à travers la prairie. Je n'avais plus autour de moi ni buisson, ni arbre, ni quoi que ce soit où quelqu'un pût se cacher. Tout à coup, on fit à mon oreille « Hem !» comme si quelqu'un était sur mes talons ou contre mon épaule. Je me retournai vivement, prêt à jouer de mon bâton, mais à ma grande surprise, je ne vis toujours personne, rien. Alors je commençai d'avoir peur, et j'accélérai le pas. Un peu plus loin, un second « Hum !» se fit entendre comme un coup de canon, et je ne voyais toujours rien. Ma peur alla alors croissant, et je ne savais plus comment j'avançais. Il me semblait que mes pieds ne touchaient plus la terre. Quand j'arrivais à l'extrémité de la prairie, au moment où je posais la main sur l'échalier pour le franchir, il me sembla qu'une autre main, une main invisible, s'y posait en même temps que la mienne, mais si forte et si lourde que je crus que tout allait disparaître sous terre, l'échalier, les deux piliers de granit et moi avec. Je ne sais comment j'arrivais jusqu'à mon lit, mais le lendemain matin, je m'y retrouvais tout habillé et avec une bonne fièvre. Eh bien, tout cela est naturel, n'est-ce pas, Andran ? N'est-ce pas, Even ? Et s'explique le plus facilement du monde. Je crois pouvoir affirmer, répondit Even, que Maître Pipi n'avait pas joué aux cartes à Kerarborn pendant une grande partie de la nuit sans boire passablement de cidre et de vin, quelque peu de cognac ou de rhum aussi, sans doute, si bien que sa tête était échauffée, que son imagination fermentait et son oreille tintait et prêtait des voix mystérieuses, des imprécations terribles aux arbres, aux buissons et aux moindres roseaux agités par le vent. « Voilà, voilà, reprit Pipi, toujours la même explication qui n'explique rien. Vous aviez bu abondamment, votre imagination travaillait, toujours l'imagination. Vos yeux voyaient troubles et prenaient pour des fantômes et des géants les troncs d'arbres et les rochers. Vos oreilles tintaient et interprétaient à leur gré le bruit du vent dans les arbres, etc., etc. Et toujours, toujours la même chose. Mais tonnerre de Brest, allez compter cela à d'autres. Je ne suis peut-être pas un enfant à avoir peur de son ombre. Et quand je dis avoir vu ou entendu une chose, je l'ai vu ou entendu et non rêvé. Vraiment, ces esprits forts qui, tirant vanité de leur incrédulité, pensent avoir seul le privilège de la bravoure et s'imaginent qu'il n'y a que pour avoir de bons yeux, de bonnes oreilles et des sens infaillibles, et surtout une imagination toujours sûre, calme et froide, sont impatientants. Ah, que je voudrais donc les voir à l'épreuve. Moi aussi j'ai été un peu comme cela, mais on change avec l'expérience et le temps. Et puisque je suis sur ce chapitre, écoutez encore, vous verrez qu'ils m'expliqueront aussi ce que je vais dire, mais toujours par les mêmes mots, imagination, sens troublé, fièvre, etc. C'était encore à Runeriou. Pendant que j'ai habité cette maison, j'ai eu tout le temps de faire connaissance et de me familiariser avec les lutins et autres habitants du monde surnaturel. Toi, Catel, tu as déjà entendu et plus d'une fois conté ces histoires des lutins de runerie ou soit à moi, soit à ma sœur ou d'autres, et Even aussi.
Oui, certainement, répondit Catel, et il n'est pas un ancien domestique de runerie ou qui n'est long à compter là-dessus. Ainsi m'a-t-on assuré que même en plein jour, on y entendait remuer les marmites, la vaisselle, et cependant on ne voyait jamais rien.
J'ai aussi entendu dire à ta sœur que, pendant l'été, après souper, on se réunissait souvent dans l'air à battre ou dans le jardin pour causer et jouer à différents jeux, et personne alors ne restait dans la maison. Et cependant, on y entendait très distinctement marcher, remuer les objets, causer et rire, comme s'il y avait eu une douzaine de personnes. L'ancienne maison a été démolie, une autre a été bâtie sur l'emplacement, mais il paraît que les lutins ont délogé.
Tout cela est parfaitement vrai, reprit Pipi, mais voici ce que je voulais vous raconter. Pendant le carnaval, le Mardi Gras, je crois, de je ne sais plus quelle année, ma sœur, mon frère et tous les domestiques étaient allés souper chez ma mère à Gargarelou. J'étais restée seule à la maison. J'avais allumé un grand feu dans la cuisine, puis j'avais pris un livre, La tragédie bretonne de Sainte Tryphine, ma foi. Et je lisais tranquillement, assis dans le grand fauteuil de chêne de mon grand-père. Au bout de quelque temps, j'entendis remuer au bas de la cuisine et des bruits métalliques comme si quelqu'un changeait de place aux marmites et aux chaudrons. Je crus d'abord que c'était les chats qui faisaient ce bruit. Impatienté de voir qu'ils continuaient, j'allais voir, mais il n'y avait ni chien ni chat par là. Je revins à mon fauteuil près du feu et repris ma lecture. Mais voilà en haut, dans le grenier, un vacarme de tous les diables, comme un tas de planches qui s'écrouleraient bruyamment. Il y avait quelques jours que j'y avais monté et entassé en pile plusieurs douzaines de raies non encore dégrossies et destinées à garnir les roues d'une nouvelle charrette. « Allons, me dis-je, voilà mes raies qui viennent de s'écrouler. » Et je pris ma lumière et montais au grenier. Grand fut mon étonnement, après un pareil tintamarre, de voir que mes raies étaient à leur place et que rien ne paraissait avoir bougé dans le grenier. Je regardais à l'aide de ma lumière et visitais tous les coins et criais. « Y a-t-il quelqu'un là ? Qu'il parle, je ne lui ferai pas de mal. » Je ne vis rien, personne ne souffla mot. « Allons, me dis-je, c'est le lutin qui fait ses farces. N'importe, nous verrons peut-être bien le bout de son museau et nous saurons alors lequel de nous deux aura peur de l'autre. » Et je restais là, blotti dans un coin, bien une demi-heure, et la chandelle éteinte. Mais rien ne bougea pendant tout ce temps, de sorte que je descendis et me mis à tisonner mon feu et à fumer, attendant bravement que mon compagnon voulût bien venir causer et boire un verre de cidre avec moi. Mais non, il ne voulut point approcher, mais il continua ses malices. Voilà qu'on déplace et traîne la grande table dans la chambre au-dessus de moi. Puis, toutes les assiettes, tous les verres, les plats du buffet sont jetés sur le plancher et brisés en mille morceaux. Je prends une trique et je monte en toute hâte, m'attendant à trouver la chambre jonchée de débris. Mais non, rien. La table était à sa place et dans le buffet, rien n'avait bougé. Oh, j'étais furieux et avec mon bâton, je frappais le plancher et la table et je jurais, je criais. N'importe qui est là, homme, lutin ou diable, qu'il se montre ou qu'il parle au moins, s'il ne veut pas se montrer. Qu'il dise ce qu'il veut et nous verrons, car il y a ici un gars qui n'a pas peur et qui lui parlera en face. Eh bien donc, poltron, lâche, tu ne te montreras pas ? Et je criais, je jurais plus fort et ne savais guère ce que je disais. Mais rien ne se montrait, rien ne répondait, et je descendis en maugréant et en jurant de belle sorte. Puis, je me calmai un peu. Je craignis d'être allé trop loin, d'en avoir trop dit, et je commençais d'avoir peur. Je repassais dans ma mémoire tout ce que j'avais entendu raconter de ces génies malicieux et méchants, bons et serviables tour à tour. Je me rappelais l'aventure de Guillaume Mab Maho, cet homme d'une force prodigieuse, un véritable Hercule, qui emportait les premiers prix dans toutes les luttes et, au pardon, battait tout le monde quand il avait bu quelques chopines de trop. Il était charretier au vieux manoir de Gernaham, en Ploirette. De tout temps, le manoir de Gernaham avait été en possession de son lutin familier, qui avait soin des chevaux, qui les peignait, les brossait, les lavait, renouvelait leur litière, ne les laissait jamais manquer de foin et de paille fraîche. Enfin, le domestique n'avait presque rien à faire. Aussi, dans tout le pays, on n'eût pas trouvé un attelage comme celui de Gernaham,
des chevaux aussi propres, aussi gras, aussi luisants. Un soir que Guyon arrivait du pardon de l'Envelec, ayant bu plus que de raison, il se mit à appeler le lutin à grands cris, à l'injurier et à le défier à la lutte. On n'a jamais bien su ce qui se passa. Toujours est-il que le lendemain, Guillaume Abmahot était sur le flanc, rompu, brisé et pouvant à peine se retourner dans son lit. À tout moment, il croyait entendre le ricanement terrible du lutin qui le faisait trémoler et frissonner comme un enfant. Depuis ce jour, il ne fit que dépérir, et autant je l'avais connu brillant et fort, autant je le vis faible, amaigri et chancelant sur ses jambes. Les chevaux aussi portèrent la peine de la faute de leur conducteur, et bientôt ces fiers et superbes animaux ne furent plus que de misérables rosses. Et puis, Barbaïque le Haut, vous savez bien ce qui lui arriva à Kerarborn ?
Oui, dit Catel, la pauvre Barbaïque. Elle est maintenant bien vieille, bien cassée, bien misérable. La dernière fois que j'allais à Ploaret, je la vis qui ramassait quelques branches de bois mort que le vent avait fait tomber des arbres dans le bois de Kerarborn. J'eus bien de la peine à la reconnaître. Sa vue me causa une grande tristesse, et je me dis presque involontairement, « Pauvre femme, ton corps fléchit sous la douleur, passe donc et t'en va dans un monde meilleur. »
Mais il faut nous dire un mot de l'histoire de Barbaïque à nous autres qui ne la connaissons pas, dit le vieux Fancharflor. Car moi aussi j'ai eu affaire au lutin, et je sais qu'il n'aime pas à être contrarié.
Eh bien, reprit Catel, Barbaïque le Haut était servante à Kerarborn, en Plouaret. Elle était jeune alors, rieuse et espiègle. Kerarborn avait aussi son lutin familier qui avait soin des vaches. Aussi donnait-elle toujours en abondance un lait délicieux, riche en crème et en beurre. Le lutin de Kerarborn ne s'occupait pas des chevaux et ne voulait être agréable qu'aux femmes. La nuit, il balayait la cuisine, lavait les marmites, écurait et fourbissait les casseroles, les bassins de cuivre jaune, frottait les meubles, les armoires, les buffets, les vieux bahuts de chêne sculptés, de sorte que c'était plaisir de voir la cuisine de la vieille Maharit qui y précéda Barbaïque. Tout était d'une admirable propreté, tout brillait et reluisait, et l'on pouvait se mirer partout. Il faisait beau être cuisinière à Kerarborn. Aussi, quand Maharit allait se coucher, elle avait soin qu'il y eût toujours une bonne braise au foyer l'hiver. Elle plaçait au coin de l'âtre un galet arrondi et poli par les flots de la mer, et qui avait assez la forme d'une citrouille, et de son lit, elle voyait son lutin chéri qui venait s'y asseoir et se chauffer jusqu'au chant du coq, quand sa besogne était faite en écoutant les chansons de son ami le grillon. Il avait tout au plus un pied de haut, et jamais Maharit n'avait pu voir son visage, qui disparaissait sous un chapeau à large bord, comme on en porte dans une partie de la Cornouaille. On était habitué au bon lutin, et on ne s'en effrayait point, car il n'avait jamais fait de mal à personne. Un jour, la vieille Maharit mourut, et la jeune Barbaïque recueillit sa succession si enviée comme cuisinière du manoir. Elle en était toute heureuse et toute fière. Tout alla, on ne peut mieux, dans les premiers temps. Le lutin était bien aise et bien heureux d'épargner la peine et le plus grossier du travail à la belle et rieuse Barbaïque, et il se réjouissait de l'entendre chanter et rire tout le long du jour, au lieu que la vieille Maharit grognait et bougonnait souvent. Mais Barbaïque, qui rêvait sans cesse à quelque malice ou espièglerie, eut un jour l'idée de vouloir rire aux dépens de son ami le lutin. Hélas, ce fut pour son malheur. Une nuit, avant de se coucher, elle chauffa au feu le galet, puis le mit à la place ordinaire et, de son lit, elle guetta avec impatience l'arrivée du lutin. Il vint, comme d'habitude, et alla, sans défiance aucune, s'asseoir à sa place accoutumée. Mais aussitôt, il se releva en poussant un cri épouvantable qui ébranla toute la maison. Puis il s'enfuit en se grattant les fesses et renversant tout sur son passage. Barbaïque eut peur, reconnut qu'elle avait commis une faute grave et s'en repentit. Mais hélas, il était trop tard. Depuis ce jour, tout alla, on ne peut plus mal pour elle. Les vaches devinrent maigres et décharnées, ne donnèrent presque plus de lait, et le peu qu'elles en donnaient aigrissait sur le champ. Dans la cuisine, ce fut un désordre et une malpropreté inconcevables. La pauvre fille avait perdu toute sa gaieté, et elle avait la main si malheureuse qu'elle ne pouvait plus toucher un pot, à une assiette, sans les laisser tomber sur les dalles de la cuisine et les voir voler en éclats.
Et alors, un rire terrible, effrayant, retentissait à ses oreilles. La cuisine aussi était devenue détestable. La soupe et la bouillie étaient toujours trop douces ou trop salées. Les crêpes brûlées, les viandes pas assez cuites. Les domestiques se plaignaient constamment de leur nourriture, si bien qu'on congédia Barbaïk. Elle trouva facilement à se placer ailleurs, mais le malheur la suivit partout, et bientôt personne ne voulut plus d'elle. Alors la pauvre fille se laissa aller au désespoir, n'eut plus de courage à rien, et bientôt on la vit réduite à mendier de porte en porte, vieille à 30 ans et courbée sous la malédiction du lutin qu'elle avait offensé. « Oui, oui, » dit Arflorkoz, « il ne faut jamais plaisanter avec les esprits, ni chercher à leur faire de mal surtout, car ils se vengent toujours, et notre force et toutes nos malices, ils s'en moquent bien. Qui était plus fort et plus malin que Maloker Louarn ? Et cependant... Mais, Fanchkoz, laissez donc Pipi finir son histoire qui est restée en route. C'est toujours ainsi, dit Pipi. Quand on vous prie de parler, vous n'avez rien à dire. Puis dès que quelqu'un veut conter quelque chose, vous l'interrompez à tout moment et fourrez 2-3 histoires dans la sienne, de sorte que, quand il veut reprendre, il ne sait plus où il en était. Vous en étiez, Pipi, dit Gorvel, au moment où la peur vous prit après avoir injurié et défié le lutin de Runeriu. Oui, eh bien, ces histoires de vengeance de lutin que je me rappelais, et d'autres encore, aussi peu propres à me rassurer, se succédaient dans ma mémoire et peu à peu une telle frayeur s'empara de moi que j'allais me coucher. Je fus à peine dans mon lit que j'entendis qu'on s'emparait du ribot, et le bruit de recommencer, et un charivari de tous les diables. On faisait mine de riboter du lait pendant quelque temps, puis on roulait le ribot d'un bout à l'autre de la maison, puis on le montait dans l'escalier et on le faisait dégringoler du haut en bas sur les marches. Il fallait entendre tout cela. C'était un sabbat, vous dis-je. Enfin, on frappa à la porte de la maison. C'étaient mes frères, ma sœur et les domestiques qui revenaient de Gergar et Lou. Je m'étais enveloppée par-dessus la tête dans mes draps et je ne bougeais pas. On frappa une seconde fois et on m'appela. Certain alors que ce n'était plus le lutin, toute ma peur s'évanouit comme par enchantement. Je m'habillais à la hâte et j'allais ouvrir. « Eh bien, me dirent-ils, tu étais donc couché que tu nous as fait attendre si longtemps à la porte ? Sais-tu qu'il ne fait pas chaud ? Ma foi, oui, je m'étais couché. C'est si ennuyeux d'être seul et vous tardiez tant à arriver. Et le lutin, l'as-tu entendu ? Le lutin, allons donc. Est-ce qu'il y a des lutins ? Conte de vieille femme que tout cela. » Je ne voulais rien dire devant ma sœur et mon jeune frère qui n'auraient pas osé rester plus longtemps dans cette maison et qui n'auraient rêvé que lutin à la moindre souris qui aurait trottiné la nuit. Et puis aussi, alors, je me défendais bien de croire aux lutins et aux apparitions. On se coucha tranquillement et rien ne vint plus troubler notre sommeil pour cette nuit. Voilà ce qui m'est arrivé, à moi qui suis ici à vous le raconter, non d'après le récit de tel ou tel, mais pour l'avoir entendu moi-même, n'étant ni ivre, ni endormi. Eh bien, Even, eh bien, Andran, vous avez dit qu'en pareil cas, il ne faut jamais avoir peur, ni fuir, mais qu'on doit au contraire aller droit au but, s'avancer hardiment vers le fantôme ou le bruit, et ne pas s'en aller avant d'en avoir la raison. Et qu'eussiez-vous fait à ma place ? Voyons, dites, me suis-je montré trop heureux ? N'ai-je pas battu le taillis en tous sens sans trouver personne ? N'ai-je pas défié et injurié le lutin lui-même, ou le diable peut-être, qui sait ? Que pouvais-je faire de plus, et comment agir avec un ennemi invisible et insaisissable ? J'avoue, dit Even, que tu as montré du courage et du sang-froid selon ton habitude, bien que tu aies toujours fini par avoir peur. Mais dans ces deux circonstances, tu dis avoir beaucoup entendu de bruit et de vacarme sans avoir rien vu, de sorte que... Oui, oui, je comprends, toujours la même histoire. De sorte que c'est mon imagination qui a tout fait, que le sens de l'ouïe était troublé, ou à lui seul valaient tous les autres, etc. Mais que direz-vous si plusieurs personnes étant ensemble, elles voient et entendent les mêmes choses extraordinaires ? Direz-vous que toutes, au même moment, ont les mêmes sens troublés ou surexcités ? De manière à avoir les mêmes perceptions et à recevoir les mêmes impressions surnaturelles ? Tenez, s'il n'était pas si tard, je vous conterai quelque chose, une aventure qui m'est encore personnelle et où j'ai vu et entendu et qui vous paraîtrait peut-être plus concluante. Ce sera pour une autre fois, Pipi, dit Catel. Assez de revenants comme cela pour ce soir. Il va être temps de finir la veillée.
Les enfants sont tout tremblants et osent à peine regarder vers le fond de la cuisine où il fait noir, et plus d'un et plus d'une qui ne sont pas des enfants ne se couchera pas sans avoir regardé sous son lit et fera cette nuit de singuliers rêves. Voyons, Marharit et Mariana, chantez-nous quelques boguers ou saunes pour chasser de nos têtes ces images lugubres et ces terreurs mystérieuses, afin que nous puissions nous endormir sur des idées plus riantes.
« Que vous chanterai-je bien ?» dit Mariana. « Guerz ervoanik allintir, si vous voulez. »«
Non, c'est trop triste cela. Marharit va nous chanter un beau saune. »
Et Marharit, après s'être fait un peu prier, comme toutes les jeunes filles, quoiqu'elle brûlât d'envie de faire entendre sa belle voix, chanta le saune suivant.
« Dablun evez rez dar pardon, eno oe ranet machalon, hamaz edut machorf darger, et au clanv meurbet machoarikker.
À Plounevez j'allais au pardon, là mon cœur fut brisé, et si mon corps est revenu à la maison, il est bien malade aussi, ma chère petite sœur. Ma chère petite sœur, préparez-moi mon lit, Dieu seul sait quand je m'en relèverai. Cherchez-moi aussi un prêtre, mon pauvre cœur est brisé.
Mon frère chéri, dites-moi, quel est le mal dont vous êtes atteint? Il n'y a pas de mal qui ne puisse se guérir avec la grâce et la volonté de Dieu.
Hélas, pour avoir trop aimé une fille, j'ai du mal et de la douleur assez. Hélas, Marguerite Kernitron est celle qui m'a brisé le cœur.
Dans le pardon, quand j'arrivais, mon Dieu, qu'ai-je vu? Ô malheur, celle que j'aime dansait avec Pierre de Kervran. Une belle coiffe à dentelle sur la tête, les joues rouges, les cheveux blonds, un bouquet de fleurs parfumées à son corset, le pied léger et l'œil vif. À son doigt était encore mon anneau, et elle était gaie et rieuse. Dieu, comme elle était belle et jolie, et comme chacun la convoitait. Elle passa près de moi, quand elle me vit, elle détourna la tête. Ô Dieu, quel crève-cœur, comment ne suis-je pas mort sur la place? Mais cela arrivera sans tarder. Oui, ma pauvre sœur, il faudra mourir, mon cœur est brisé dans ma poitrine, et jamais plus je n'irai à aucun pardon.
En m'en retournant à la maison le soir, comme je gravissais la colline, j'ai vu une étoile qui était belle et brillante. Et elle est descendue du haut du ciel et est tombée dans les ténèbres. Et je me dis alors à moi-même, voilà mon amour.
Ma sœur, faites préparer mon cercueil, car dans 3 jours je serai dans le cimetière. Et quand mon corps aura été descendu en terre, ma sœur, vous mettrez dessus des fleurs d'été, des roses rouges et blanches, sous le plus grand des ifs du cimetière, afin que les jolies filles et les jeunes gens viennent les cueillir. Et alors ils se diront ceci, « Agenouillons-nous et prions pour le jeune homme qui repose ici et qui est mort pour avoir trop aimé. »
« Voilà un joli saune, » dit Pipi Armorvan. Et bien que ce soit encore triste, nous irons à présent nous coucher avec des impressions moins sombres que celles que nous auraient laissées les récits qui ont rempli toute cette veillée. Il était 10 heures et la veillée finit ainsi, un peu plus tard que d'ordinaire.